Chères auditrices et auditeurs, vous êtes avec Véronique sur Radio Sud, la radio du Beau Canton. Dans ce Beau Canton se déroulait la Grande Mère, il y a des millions d'années. Et qui sait, peut-être pourrait-on y trouver encore une bouteille jetée là, emplie de tout son grand mystère, dans l'humus de nos sous-bois. Voici l'émission Une bouteille à la mer, où toutes les histoires sont permises, réelles ou imaginaires. Larguons les amarres du quotidien et partons naviguer à travers l'univers du possible. Aujourd'hui, nous allons naviguer sur les ondes avec Calamity Jane, en présence de sa fille, son cheval, des grands espaces du Far West des années 1900, et de vous, bien sûr, mes auditeurs. Jim O'Neill, remettez s'il vous plaît cet album à ma fille, Jane Hickok, après ma mort. Jane Hickok. Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 1877. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que cela ne te parvienne jamais. Mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour dans les années à venir, après que je serai partie. 28 septembre 1877. Un autre jour est passé, chérie. En fait, 3 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Je suis assise à côté de mon feu de camp. Mon cheval Satan est attaché tout près. Tu devrais le voir quand la lumière du feu de camp joue sur son encolure, luisante, et sur ses muscles de ses épaules satinées, avec ses pieds blancs et son losange blanc entre les yeux. C'est un objet de toute beauté. Je suis si fière de lui. Ton père me l'a donné, et j'ai aussi son compagnon de course, King, que j'utilise comme un cheval de charge pour les longs trajets. Mais je ne l'ai pas pris avec moi dans ce voyage. Je peux entendre les coyotes et les loups, et la plainte saccadée des chiens indiens près de leur camp. Il y a des milliers de Sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglée et ne me font jamais de mal. J'ai suivi une nouvelle piste aujourd'hui. Ce doit être la nouvelle route postale construite par les frayeurs de pistes de Bozeman. J'espère les rattraper demain. Ils sont sur une mission dangereuse et cela ne fera pas de mal que je sois à proximité. Juste au cas où ils auraient besoin de quelqu'un pour les aider à effrayer les Sioux. Je crois que je suis le seul être humain dont ils aient peur. Sur cette page, tu trouveras une photo de ta grand-mère, Canary, ma mère. Elle et ton grand-père sont venus à travers les plaines dans un chariot bâché quand je n'étais qu'une petite enfant. Nous avons vécu des années dans le Missouri. Ton papa Jim m'a envoyé un porte-plume et une bouteille d'encre afin que je puisse lui écrire quelquefois. C'est un homme qui a du respect pour ta mère, même si les autres n'en ont pas. Ce porte-plume a été fabriqué en Irlande. Je le porte attaché à ma selle, avec cet album que j'ai, l'encre dans une poche, de façon à pouvoir t'écrire à côté de mon feu de camp. Les O'Neill ont changé ton nom en Jan Eyre, mais je t'appelle Janey pour Jane. Colson, juillet 1880. Nous avions passé toute la nuit au vieux poste de Virginia Dale. Je portais des pantalons d'homme et me faisais passer pour l'associé de Wild Billy. Avant de partir, nous avons eu un concours de tir. Je les ai tous battus, et pour sûr, ça m'a donné la grosse tête. Puis, le conducteur remplaçant a été tué et j'ai pris sa place. Tout le monde a blâmé les Indiens, mais c'est des hommes blancs qui étaient les auteurs de la tuerie et du meurtre et qui ont volé la poudre d'or aux garçons. Tes grands-parents et grand-maman avaient de l'instruction, même si je n'en ai pas. Et ça n'a pas été leur faute si je me suis enfuie à la première occasion que j'ai eue. Vois-tu, ton grand-père était prédicateur. Il était comme le père Smith. Il pensait qu'il pouvait combattre la nation indienne tout entière avec une Bible. Je ne crains pas de les affronter tant que j'ai 2 pistolets dans la ceinture. Mais aussi, bien sûr, que l'enfer existe. Je détesterais les affronter avec une Bible sous le bras, Tu comprendras tout ça un jour. Bonne nuit, Jenny. Deadwood, août 1880. Jenny chérie, me voilà de retour à Deadwood pour quelques semaines. Je hais les femmes d'ici. La majorité d'entre elles n'est pas meilleure que moi, mais elles traversent la rue plutôt que de me parler ou me croiser. Si seulement elles savaient ce que je sais, que leur père rigolait en faisant une encoche à leur fusil chaque fois qu'une autre de leurs filles venait de se marier. Ça leur ferait vraiment mal d'avouer qu'un autre bâtard était en fabrication. Et ces mêmes salopes me montrent du doigt en m'appelant Jane Hickok, un ricanement sur leur figure de coyote. Si j'étais un homme, il me suffirait de leur flairer une seule fois les aisselles pour être dégoûté. Je fais une exception pour Madame Bander. Elle est douce et bonne. J'espère que si tu viens jamais par ici, que tu iras voir certaines de ces vermines, si elles sont encore de ce monde, et que tu leur donneras une foutue bonne correction en mémoire de ta vieille mère. Quand je veux un verre de vin ou de whisky, je passe les portes du saloon et je le prends. Mais ces saletés de vermines se cachent derrière les portes pour boire et n'hésitent pas à s'agripper aux hommes mariés. Oh, si seulement je pouvais t'avoir la nuit tombée pour une heure aux côtés des feux de camp afin de briser cette solitude. Si seulement je pouvais te prendre dans mes bras. Je médite dans une couverture auprès de mon feu de camp, guettant loups et coyotes. Mes chevaux veillent tout proche et je m'endors en priant Dieu de me laisser vivre assez longtemps pour te revoir encore une fois. Ta mère, Jane Hickok. Colson, janvier 1882. Une autre année est passée. Rien d'important n'est arrivé sur quoi écrire. Le Northern Pacific Railroad est près d'être achevé. Une nouvelle ville a surgi, mais je t'en ai déjà parlé dans l'album. Je vais te voir bientôt. Je peux à peine attendre. Je joue ces jours-ci afin de gagner assez d'argent pour en donner à ton papa Jim pour ton éducation. J'ai gagné 1 000 $, mais ça s'en va, Jenny. Ça part aussi facilement que c'est venu. Je trouve toujours un sacré pauvre idiot dans un état pire que le mien et l'aide à faire une petite mise ou à acheter des vêtements et nourriture à une famille d'enfants abandonnés de Dieu. Je ne pourrais pas manger une bouchée si je voyais un pauvre petit moutard affamé. Je pense toujours à toi, chérie, et voilà mon argent parti. Ensuite, je recommence tout. Je ne pense pas avoir le moindre mérite à agir comme je le fais. Il m'arrive parfois d'être un peu ivre, Janie, mais je ne fais de mal à personne. Il faut que je fasse quelque chose pour vous oublier, toi et ton père. Mais je ne suis pas une femme légère, Janie. Si j'en étais une, je ne serais ni infirmière, ni éclaireuse, ni conductrice de diligence. C'est comme ça qu'on m'appelle à Deadwood. Que ces villes aillent au diable, elles aussi. Dans l'une et l'autre, il ferait mieux de voir la poutre dans leur œil que la paille dans l'œil du voisin. Une caisse de livres vient d'arriver de la part de ton papa Jim. Pour sûr, il veut que j'apprenne quelque chose. Je vais aller te voir bientôt, maintenant. Mais il faut que je rentre pour la partie de poker. Il faut que je gagne 20 000 $ avant de pouvoir aller vers toi. Je m'occupe d'une fille et d'un garçon. Et je dois te dire que Jackie est partie pour l'Alaska. Ces deux-là sont plus âgés. Je vais les emmener dans l'Est avec moi quand j'irai te voir, si je gagne la partie de poker. Le garçon veut entrer dans une école de médecine et la fille veut être actrice. Je leur donnerai leur chance à tous deux si je gagne. Et je gagnerai. Bonne nuit, chérie, jusqu'après le jeu. La partie de poker est terminée. J'ai gagné mes 20 000 $ et j'ai remboursé les 500 que j'avais empruntés à Abbott pour démarrer. Je suis si excitée d'avoir gagné, car maintenant je peux aller te voir en grand équipage. Je veux avoir l'air de quelque chose une fois dans ma vie.
Quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, et quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux. Il y a toujours une lumière.
Deux ans plus tard, chère Janie, me voilà à Old Clark City, pas loin de l'endroit où tu es née. Il n'y a rien pour moi ici. Je dois m'occuper du bébé d'une amie. Elle me l'a laissé et n'est jamais revenue le prendre. J'ai pris soin d'elle quand le bébé est né et maintenant je l'ai en paiement de ma peine. Chacun s'enquiert de cette petite fille et je leur dis « Oh, elle est à moi! Vous ne saviez pas que j'en avais une ?» Puis la fois suivante, je dis à une autre « Oh, c'est ma petite fille !» Je les tiens tous sur les charbons ardents, avec mes remarques sur les nombreux enfants que je suis censée avoir mis au monde. Mais tu es la seule que je puisse vraiment dire mienne, et maintenant tu vas avoir 14 ans en septembre. J'irai te revoir quand tu en auras 18. Je m'y prépare. Je vais trouver un foyer pour cette petite fille. Je ne peux travailler et m'occuper d'elle en même temps. Car quand je travaillais chez Russell, les bonnes et vertueuses femmes du lieu ont voulu me chasser de la ville. Elles sont entrées dans le saloon, armées d'une cravache et d'une paire de cisailles pour me couper les cheveux et me coiffer à la Ninon, comme les femmes légères de Paris sont tenues de l'être. Comme ça, elles restent à leur place avec leurs marques sur les oreilles. Eh bien, Janie, je leur ai réglé leur compte à ma façon et je n'ai pas quitté la ville coiffée à la Ninon ou marquée par leur cravache. J'ai sauté du bar au milieu d'elles et avant qu'elles puissent dire « ouf », les voilà toutes à hurler. J'ai coupé les vieilles boucles noires d'une de ces garces, leur ai flanqué des coups de cravache sur la tête et j'en aurais tué quelques-unes quand Abbott et le révérend Slipe sont entrés. La poussière est retombée, et elles étaient toutes là, leurs scalpes encore sur le crâne, moins quelques poignées de cheveux, et n'ayant subi aucun dommage, sinon que je les ai traînées sur le plancher sale, que leur robe était à moitié déchirée, et qu'un jupon ou deux manquait. C'était drôle de voir comme ces méchantes femmes convenables ont oublié l'usage du mouchoir et ont mouché leur nez morveux dans leur jupon. Je parie que leur jupon tiendrait droit, tout seul, si elles les jetaient dans un coin. Tu aurais dû voir les hommes. Ils se sont tous ôtés du chemin, mais ils n'ont pas raté le spectacle. Un jour, je finirai ce travail. Vois-tu, je porte un pantalon d'homme, et ça me permettrait de me déplacer pendant que ces femelles en jupon appelle à l'aide. Une des aristocrates, Natsim, porte encore des paniers. Tu aurais dû la voir quand j'ai sauté du bar. J'ai attrapé sa jupe à panier et ses trois jupons et lui ai relevé le tout sur la tête. Elle ne pouvait pas se défendre. Je l'ai donc eue juste là où je voulais la voir. Je lui ai arraché son pantalon long et l'ai laissé planter là, dans ses culottes de naissance, pour que les hommes s'en payent une tranche. Ensuite, j'ai pris le pantalon et ses rangées de dentelles au crochet et les ai nouées autour du cou d'une autre femme qui était en train de me taper sur la tête. Quand j'ai vu sa langue pendre, je me suis attaquée à une autre. Si Abbott et Slipe ne s'étaient pas montrés juste à ce moment, je les aurais toutes mises dans leur tenue de naissance. Au début de la bagarre, un homme Scott a entrepris de me donner un coup de main. Mais comme il savait que nous devrions les assommer, je lui ai dit que s'il me donnait assez de temps et de place, je pourrais m'en tirer seule. Il était trop gentleman pour assommer des femmes. Aussi est-il resté à me regarder, prendre ma part de coups, de griffes et de baffes. Certaines m'ont même mordu, mais j'étais si joliment furieuse que je n'en ai rien senti jusqu'au lendemain. Te voilà fixée sur Deadwood, et quand tu viendras par ici, si tu le fais jamais, Janie, et si on m'enterre à côté de ton père, et si certaines d'entre elles te toisent à cause de tes parents, tu fais transférer nos corps à Abilene, Kansas, ou ailleurs si tu le désires, d'un autre côté, si on t'y traite décemment. Souviens-toi, Janie, je veux que tu sois enterrée à côté de nous quand viendra pour toi le moment de franchir la grande ligne de partage. Je ne vivrai jamais jusqu'à un âge avancé, Janie. Je ne peux pas supporter cette vie horrible de très près encore de nombreuses années. Je pense quelquefois que je me remarierai, et puis l'idée d'être pendue à la chemise d'un homme me rend malade. Je voudrais que les choses soient différentes, et que je puisse continuer à traverser toutes ces années, en sachant que je t'aurai un jour avec moi, mais que tu te marieras tôt ou tard, et tu seras peut-être une vieille femme avant que tu apprennes jamais qui était vraiment ta mère. Quand tu viendras ici, Janie, il y a quelques personnes que j'appelle des amis et que je veux que tu puisses voir. C'est tout pour cette fois. Tu sais que je t'aime, chérie. Toujours ta mère, Jane Hickok. 25 septembre 1891. J'ai eu du spectacle aujourd'hui. Il y avait un certain nombre d'Indiens Cheyennes à quelque distance de la diligence. J'ai mis pied à terre et j'ai trouvé des démons qui coupaient les langues des bêtes en liberté. J'ai fait la seule chose possible, je leur ai foncé dessus. « Langue de vache bonne !» c'est tout ce qu'ils savaient dire. Les malheureux animaux saignaient à mort. Je me suis mise dans une telle fureur que j'ai tiré mon pistolet et les ai enfermés dans la diligence et les ai emmenés à Deadwood. J'ai aussi emporté des langues comme pièce à conviction. « C'est ton anniversaire, tu as 18 ans aujourd'hui. » Et une lettre est arrivée de ton papa Jim, cher vieux capitaine. Je l'aime tant, Janie. Il a été un père si merveilleux pour toi. Cela me fait mal au cœur de penser à toutes les années où il a poursuivi sa route sans sa femme. Pourquoi Dieu laisse-t-il pareille chose arriver? Et j'ai fait quelque chose de fou. Il y a quelque temps, j'ai épousé Charles Burke. Il m'a eu dans un moment de faiblesse et nous nous sommes mariés. C'est un brave homme, honnête et carré, mais je ne l'aime pas, chérie. J'aime toujours ton père, Billy Cock. Mais Charlie a presque mon âge, les cheveux noirs, les yeux bleus. Le mariage n'est pas vraiment un roman. Nous nous sommes mariés au bord de la rivière, sous un massif de peupliers des marais. Janey, les rayons du soleil perçaient doucement entre les branches des arbres et semblaient répandre la splendeur d'une lumière radieuse sur notre groupe d'amis. La clarté du soleil était comme une bénédiction. Naturellement, j'ai pleuré. Je braille tout le temps. Je sais que tu prends plaisir à ton voyage, Janey. Je t'envie. Bonne nuit, chérie. Juillet 1893. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience du pire orage de grêle que j'ai jamais vu dans ce pays. Et je ne m'attends pas à en revoir un autre. Comme ça, même si je vis jusqu'à 100 ans. Je conduisais la diligence. Des grelons aussi gros que des tasses à café frappaient le toit de la voiture et le fendaient comme à coups de couteau. Je passais près d'une cabane abandonnée. Il y avait là une étable et je me suis hâté d'y pousser les chevaux. Ça n'a pas été inutile, mais l'arrière de la diligence a dû rester sous la tempête. Je ne suis pas rentré assez vite dans l'étable, car quand tout a été terminé, je me suis aperçu qu'un des chevaux avait été frappé si fort par un grelon qu'il avait un œil crevé. Les Indiens ont subi des pertes aussi bien que les Blancs. J'en ai vu des centaines de bestiaux et de chevaux qui descendaient au fil de la rivière. Morts. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Bill Cody, me demandant de me joindre à son Wild West Show. La prochaine fois que j'écrirai dans cet album, je serai loin d'ici. 25 juillet 1893. Je pars la semaine prochaine rejoindre le Wild West Show de Bill Cody. J'imagine que tu te demanderas ce que je vais faire là-bas. Je monte un cheval accru. Je me tiens debout sur son dos. Je jette en l'air mon vieux Stetson et je tire 2 fois sur lui avant qu'il me retombe sur la tête. Je ferai toutes sortes de trucs à cheval, du tir acrobatique, et bientôt, quand le spectacle sera prêt, peut-être toi et ton papa, Jim, serez-vous là pour me voir. Bien sûr, tu ne sauras pas qui je suis, mais moi je saurai que tu es ma petite fille, bien que tu aies grandi. Il faut que je te dise quelque chose. Je viens d'acheter à Joe Steiger 320 acres, une demi-section en amont de Canewood Creek, 7 ou 8 miles à l'ouest de Billings. J'ai une petite cabane en rondin. J'ai payé la chose à Joe, 1 $ l'acre. J'ai toujours voulu un foyer, ou revenir, un toit sur ma tête que je puisse appeler mon chez-moi. Il y a une cabane pas très loin de la mienne, et une bande dehors la loi y vit. Je leur cuisine des tas de choses. Ils me payent bien pour tout. Ce qu'ils font ne me regarde pas. Je ne les dérange pas du tout. Certains disent que ce sont des voleurs de chevaux. Si c'est vrai, je ne prends pas le risque de fouiner. Je leur ai cuit 2 douzaines de pains cette semaine, 8 gâteaux et 15 tartes. Ils me payent 50 cents la tarte, 20 cents le pain et 1 $ le gâteau. Je vais t'écrire mes recettes. Peut-être un jour aimeras-tu savoir si je savais ou non cuisiner. Je suis fière de ma cuisine, spécialement de mes plats de poisson, de mes gâteaux et de mes tartes. Je fabrique des recettes et les essaye sur ces hors-la-loi d'en face. Je vais d'abord te donner mon gâteau de 20 ans. Ce gâteau est insurpassable et restera bon jusqu'à la dernière miette pendant 20 ans.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Le 1er août 1903, disparaissait l'une des figures les plus emblématiques du Far West. Une cowgirl blonde, galopant cheveux au vent sur un cheval blanc. Une justicière ténébreuse armée jusqu'aux dents. La femme qui tire plus vite que son ombre. Telles sont les images qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque Calamity Jane, de son vrai nom, Martha Canary. Le 8 mai 1941, Madame Jean McCormick, 68 ans, invitée de l'émission We the People sur la radio CBS de New York, à l'occasion de la fête des mères, déclare publiquement être la fille de Calamity Jane. En guise de preuve, elle affirme avoir en sa possession des lettres que sa mère lui aurait écrites durant 25 ans sans jamais lui envoyer. Elle lui aurait été remise par son père adoptif, peu avant sa mort. Le monde entier découvre alors une Calamity Jane sensible et aimante, une femme rongée par le remords d'avoir abandonné son enfant qu'elle ne pouvait pas élever. Cette femme d'exception, qui préférait la vie itinérante et solitaire, a voulu pour sa fille la douceur d'une famille stable et les moyens matériels d'une éducation solide. Elle l'a donc confiée, à l'âge d'un an, à deux voyageurs originaires de l'Est, Jim et Helen O'Neill. Ces lettres sont un formidable témoignage d'amour maternel. Moi, Véronique, assise dans mon salon, je peux te voir, toi, Calamity. Je peux te voir parce que tu vis en moi. Tu vis en moi du matin au soir, dans cette grande colère qui m'habite souvent. Bien sûr, je n'ai pas de cheval, j'ai une voiture. Et bien sûr, le monde a tourné différemment. Mais dans le fond, il est toujours pareil. Il y a toujours des boucles noires de femmes méchantes, des boucles noires que l'on a envie de couper. Et oui, oh, que j'aimerais pouvoir sauter d'un comptoir et les battre toutes. Vois, Calamity, j'ai mes fils près de moi, mais je te comprends quand même.
Eh oui, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sud. Il est à présent l'heure d'accoster sur la terre ferme du beau canton et de nous quitter jusqu'à notre prochain rendez-vous dans les bras puissants des alizés marins.